pose parfois pour nous. Comment vivons-nous les moments difficiles que nous connaissons dans notre vie? Eh bien, il me semble que les trois lectures de ce jour, à travers les personnages bibliques qui nous sont présentés, peuvent nous aider à répondre à cette question. Commençons par la première lecture où nous voyons le prophète Élie. Le prophète Élie, ça signifie mon Dieu, il fuit devant la colère de la reine Jézabel parce qu'il vient d'offrir un sacrifice sur le mont Carmel et après avoir offert ce sacrifice, il a égorgé, massacré les 450 prophètes de Baal qui étaient fidèles à cette reine Jézabel. Et maintenant, la reine lui en veut et le poursuit. Et il dit, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il désespère de lui-même. Il sent son incapacité à être véritablement prophète en Israël et à annoncer le vrai Dieu avec joie et fidélité. Mais Dieu ne va pas l'abandonner. Poursuivi par la reine Jézabel, Dieu va nourrir le prophète Élie pour lui permettre de poursuivre sa route jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb, où il va faire, et c'est la lecture de ce jour, l'expérience de la présence de Dieu. Soutenu par la nourriture du Seigneur, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. Et vous savez que le chiffre 40 est symbolique dans la Bible. C'est le chiffre de l'enfantement, c'est le chiffre de la recréation, puisqu'il faut 40 semaines d'une femme pour mettre au monde un enfant, eh bien, Élie, lui, va devoir passer de la vision d'un Dieu vengeur à un Dieu intérieur qu'il va accueillir à travers le mystère du murmure d'une brise légère. Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner aujourd'hui pour nous à travers les difficultés de notre existence ? C'est que notre chemin de foi peut nous paraître long, voire vraiment trop long, si nous ne sommes pas nourris par Dieu, par sa parole, et si nous ne sommes pas nourris non plus par l'Eucharistie. Mais nous savons que Dieu s'occupe de nous malgré tout, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous avons l'impression qu'il est absent, il est là. Il continue à marcher à nos côtés sur notre route. Et cela signifie aussi que l'expérience de Dieu ne se fait pas dans des phénomènes extérieurs ou extraordinaires, mais par un mouvement intérieur de retour à soi. Il a été dit à Élie, « Tiens-toi devant la caverne, et le Seigneur va passer. » En hébreu, le terme « passer » se dit « Pessa », et ça a donné le mot « Pâques ». Il a dû être libéré d'une fausse vision de Dieu, ce Dieu tout-puissant, pour rentrer à l'intérieur de lui-même et découvrir un Dieu miséricordieux et un Dieu amour. Rappelons-nous, dans les difficultés de notre existence, que nous devons aller au-delà des idées que nous nous faisons de Dieu, au-delà de nos attentes. Parfois, nous exigeons de Dieu certaines choses qu'il ne peut pas nous donner ou qu'il ne nous donne pas, parce que ce ne sont pas les choses qui sont bonnes pour nous à ce moment-là, même si nous avons l'impression que cela nous ferait du bien. Demandons la grâce d'accepter nos limites, de connaître notre vulnérabilité comme Élie va la connaître au mont Horeb pour pouvoir accueillir cette présence du Seigneur. Et finalement, c'est l'expérience que va faire également saint Paul dans la deuxième lecture. Parce que dans la deuxième lecture, Paul, dans sa lettre aux Romains, constate l'échec dans son annonce du Christ auprès des Juifs. Voilà ce qu'il dit. « Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être anathème, c'est-à-dire séparé du Christ, séparé du Dieu, maudit, on pourrait dire, si tout cela pouvait les sauver et leur permettre de connaître la vérité. » Paul, lui aussi, a beaucoup prêché. Il a converti beaucoup de personnes par sa prédication, mais il n'arrive pas à convaincre les Juifs. Et il dit, je connais donc une grande tristesse, une douleur incessante à cause des difficultés que je connais dans l'annonce de l'Évangile, dans la prédication de l'Évangile, car j'annonce le Christ, mais le Christ n'est pas accueilli. Alors, il va petit à petit, tout au long de sa vie, se rendre compte que ce n'est pas d'abord ses paroles, la puissance de ses paroles qui convertissent, mais la grâce de Dieu. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dira, c'est Dieu plutôt qui parlera à Paul en disant, ma grâce te suffit, car la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Paul, tout comme Élie, va faire l'expérience de sa vulnérabilité. Il va faire l'expérience de ses propres limites et il va devoir compter sur la grâce infinie du Seigneur. Il va se rendre compte qu'il ne faut pas avoir peur de ses propres faiblesses, car c'est dans nos faiblesses, dans les difficultés de notre existence, que Dieu montre sa puissance et nous sauve finalement. Élie, Paul vont connaître cela. Mais c'est cette expérience que va faire également Pierre dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Pierre, lui aussi, va marcher sur l'eau à la suite du Christ. Mais il va le faire non pas par ses propres forces, mais par la grâce du Christ dans lequel il croit. Il va aller vers le Christ, mais quand il va regarder ses pieds et compter sur ses propres forces, il va commencer à sombrer dans la mer. Nous le savons. Dans la Bible, la mer, les eaux, symbolisent la mort, le péché, le mal. Car la mer, c'est le lieu des monstres marins et de Léviathan. Et cela signifie toutes les difficultés de notre existence avec son lot de tentations, de détresse. Et on pourrait relire cet épisode que nous connaissons bien quand Jésus marche sur la mer et qu'il invite Pierre à le suivre. Le relire de manière apocalyptique, pourrions-nous dire. Si nous prenons le mot apocalypse dans son sens primitif, à savoir de révélation. Car si nous lisons cet épisode où Jésus marche sur la mer en regardant cela d'un point de vue apocalyptique, nous voyons qu'il y a trois révélations qui nous sont faites. La première révélation, c'est la révélation de la divinité du Christ. Il marche sur les eaux de la mort. Et cela signifie que la mort n'aura pas le dernier mot. Comme la mort n'a pas eu le premier mot dans le monde, tout ce que Dieu a créé était bon, la mort n'aura pas le dernier mot dans nos existences. Le mal, les difficultés, les épreuves n'auront pas le dernier mot dans notre existence. Car nous le savons, le Christ a vaincu la mort. Et en marchant sur la mer, eh bien c'est comme une prophétie déjà, avant la mort et la résurrection du Christ, de sa victoire sur la mort qu'il traversera pour nous et que nous serons nous aussi appelés à traverser avec lui. Première révélation, c'est cette révélation de la divinité du Christ et de sa victoire sur les difficultés, sur le mal et sur la mort. Deuxième révélation de cette page d'Évangile, c'est la révélation du mystère de l'Église. Et nous le savons, c'est Bossuet qui disait cela, l'Église, c'est le Christ continué. Au moment de l'Ascension, Jésus est monté au ciel, mais il nous a laissé l'Église pour que par l'Église et dans l'Église, nous puissions, en suivant le Christ, tête de l'Église, obtenir le salut. Le Christ est véritablement présent dans son Église. Et d'ailleurs, la barque sur les eaux, nous le savons, signifie l'Église qui avance au milieu des tentations et des tribulations du monde, comme l'a dit le Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium au numéro 8. Et Matthieu, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous dit que cette barque était battue par les vagues. En fait, quand on va voir le mot grec, il ne faudrait pas traduire par « cette barque était battue par les vagues », mais mot à mot, il faudrait traduire « cette barque était torturée par les vagues ». Or, vous voyez bien que le terme même de « torturer » implique souffrance, douleur, et tout cela ne peut s'appliquer qu'à des êtres vivants. Ça signifie bien que cette Église que nous formons, l'Église n'est pas d'abord une Église bâtiment, et c'est l'Église que nous formons, nous sommes le corps du Christ, et bien parfois nous sommes torturés, nous connaissons la souffrance, nous connaissons les douleurs, nous connaissons les difficultés. Mais Encore une fois, si nous voulons compter uniquement sur nos propres forces alors que nous sommes chrétiens, baptisés et que nous sommes dans l'Église, eh bien, nous connaîtrons les difficultés, les tribulations et la souffrance. Mais si nous avons conscience que dans cette barque qu'est l'Église, eh bien, il y a le Seigneur qui est la tête de l'Église, il y a Pierre, son successeur, le pape Léon XIV, eh bien, nous pourrons traverser les tempêtes et les difficultés de l'existence. Et troisième révélation, enfin, c'est la pauvreté de la foi de Saint-Pierre. Car Pierre, finalement, va aller à la rencontre de Jésus. Et il va lui aussi marcher sur la mer. Mais à un moment, il va s'enfoncer. Et Jésus va lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus ne dit pas à Pierre qu'il n'a pas la foi, mais il lui reproche son manque de foi. Et en fait, quand on regarde dans le texte, on voit bien que Pierre n'a pas peur des vagues, mais il a peur du vent. Et on nous dit que le vent, il était fort, et que ce vent, il était contraire. Or, nous savons aussi que lorsque nous traduisons de l'hébreu et du grec, eh bien, c'est le même mot pour dire le vent ou l'esprit. Et donc, l'esprit contraire, le vent contraire, c'est Satan, c'est le démon, ce sont les forces du mal. Et si nous appuyons sur notre foi qui nous vient de Dieu, nous pourrons aussi avancer jusqu'à l'autre rive et affronter les forces du mal avec une foi inébranlable. Alors, toute la vie de Pierre va être justement de faire grandir en lui la foi et de combattre toutes sortes de présomptions d'y arriver par lui-même. Quand nous regardons dans la vie de Saint-Pierre, c'est assez étonnant, mais on voit Saint-Pierre souvent qui compte sur ses propres forces ou qui veut montrer à Jésus comment faire pour nous sauver. Au chapitre 16 de Saint Matthieu, après avoir fait cette magnifique profession de foi à Césarée de Philippe, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus va annoncer à Pierre et aux apôtres sa passion. Eh bien, Pierre va dire, « Cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus dira, « Passe derrière moi, Satan. » Il comptait sur ses propres forces, où il voulait montrer plutôt à Jésus comment faire pour nous sauver. Et puis, un peu plus tard dans l'Évangile, quand Jésus annoncera aussi sa passion, il dira, « Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Or, on sait que Pierre va renier trois fois. Alors, Jésus lui dit, au lieu de compter sur tes propres forces pour traverser les difficultés de la vie, au lieu de vouloir mener la barque tout seul, regarde-moi, compte sur moi. Et finalement, quand Pierre va à nouveau regarder le visage du Christ et qu'il va prendre la main que Jésus va lui tendre, eh bien, il va être tiré des eaux de la mer, des eaux de la mort, des eaux du péché. Et saint Augustin commente ainsi ce passage. Il dit, le Seigneur s'est abaissé et il t'a pris par la main, apôtre. Par tes seules forces, tu ne peux pas te relever. Serre la main de celui qui descend jusqu'à toi. Serre la main de celui qui descend jusqu'à toi. Eh bien aujourd'hui, en contemplant la figure d'Élie, la figure de Paul, la figure de Pierre, nous sommes tous invités, nous aussi, à serrer la main de celui qui est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver, pour nous recréer, pour nous arracher au mal et au péché. Donc n'ayons pas peur des difficultés ou des épreuves dans l'existence. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours là à nos côtés. Saint-Pierre le dit d'une manière magnifique dans sa première lettre. Vous exultez de joie parce que vous avez reçu la grâce divine le jour de votre baptême. Vous exultez de joie même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Mais ces épreuves vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, que mon prière soit celle-ci, Seigneur, augmente en nous la foi. Donne-nous la grâce de prendre la main d'une dent, ainsi nous pourrons arriver aux portes